Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, le président de la transition aux côtés des familles des soldats tombés au front, le capitaine Ibrahim Traoré, est allé ce week-end s'enquérir des conditions de vie des veuves et orphelins. Il est réconforté. C'est bien d'instaurer de nouvelles taxes pour lutter contre l'insécurité, mais il faut que les résultats suivent. C'est l'avis de l'enseignant-chercheur Koudbi Kabore. Vous l'entendrez dans ce journal. Une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine séjourne depuis hier à Ouagadougou. Sa mission, évaluer la situation du Burkina sur les plans humanitaires et sécuritaires. À la une également, le 9e anniversaire du crash Air Algérie. 116 personnes, dont 27 Burkinabés, ont péri lors de l'accident en 2014. Aujourd'hui encore, 24 juillet, la douleur est toujours vive, selon Alidou Ouedraogo, le président de l'association des ayants droit. En ouverture d'édition, les forces combattantes burkinabées ont neutralisé le samedi 22 juillet plusieurs terroristes dans le démantèlement de leur base dans la forêt de Tangali à l'est, selon nos confrères de l'AIB. À la suite de ce démantèlement, les forces de sécurité, de défense et de sécurité ont récupéré plusieurs matériels, dont des armes, des engins explosifs, des vélos, du carburant et de la nourriture, poursuivent nos confrères de l'agence d'information du Burkina. Et 72 heures après sa disparition, l'on est toujours sans nouvelles ce lundi de l'ex-député maire de Komsilga, Issouf Nikema. Son parti, l'UPC, appelle les autorités à situer l'opinion et exige la libération immédiate d'Issouf Nikema. Il aurait été enlevé par des hommes encagoulés en plein Ouagadougou le 21 juillet dernier pour protester contre cette disparition. Des populations de la commune rurale de Komsilga avaient érigé des barrages dans la nuit du vendredi 21 juillet sur la route nationale numéro 6 menant à la commune. Je vous le disais en titre, le président de la transition a effectué une visite samedi chez des familles des éléments des forces de défense et de sécurité tombés au front. Au cours de cette visite, le capitaine Ibrahim Traoré a réaffirmé son engagement à mettre tout en œuvre pour une prise en charge adéquate des pupilles de la nation et pour assurer la formation des veuves. On en sait plus avec Bruno Bayala.
Par cette visite inopinée, Ibrahim Traoré a voulu s'enquérir des conditions de vie des veuves et des orphelins, réconforter et encourager les familles des soldats tombés au front. À cette occasion, le président de la transition a réaffirmé son engagement à mettre tout en œuvre pour une prise en charge adéquate des pupilles de la nation et pour assurer la formation des veuves au métier dans les différents centres de formation des forces armées nationales afin de leur permettre d'avoir une autonomie financière.
C'est à ce titre qu'on venait vraiment pour s'enquérir des conditions de la famille, voilà, savoir si vraiment tout va bien, qu'est-ce qu'on peut apporter. Parce que ce qu'on est en train de faire actuellement pour les familles, c'est des centres qu'on est en train de construire un peu partout pour que les veuves puissent apprendre des métiers de leur choix. À la fin, on essaie de les réinstaller. Aussi, s'assurer que les services sociaux s'occupent bien d'elles et des enfants. Et en perspective, je pense qu'on a une agence carrément qu'on est en train de créer à la présidence pour s'occuper uniquement des veuves, des orphelins et des blessés. C'est un peu l'objet de notre visite.
Les différentes familles ont traduit leur gratitude au chef de l'État pour les messages d'encouragement et pour le soutien manifesté.
Vraiment, la visite nous réconforte. Ça nous remonte le moral, sinon c'est pas facile. Mais si en tout cas on arrive à avoir une visite comme ça, un tel comme celui-ci, en tout cas ça nous réconforte et ça nous redonne le moral. Bon, nous, c'est comme je viens de le dire, j'ai toujours des enfants dans le corps. Nous faisons qu'ils mettent des bénédictions toujours pour que vraiment ça s'arrête, que ça ne se répète plus.
Ça m'a fait plaisir vraiment, ça m'a soulagé, ça m'a vraiment apaisé le cœur. Bon, je n'avais jamais imaginé, je n'avais jamais cru que bon, un jour cela allait arriver. Mais vraiment, du coup, ça m'a soulagé, ça m'a beaucoup soulagé.
Vraiment, cette visite du chef de l'État, vraiment, je suis émue. Il ne savait pas que moi, ma modeste personne, tout un chef d'État vient jusqu'à moi pour me saluer. Vraiment, je suis très ému.
Ibrahim Traoré a également rappelé son engagement et sa détermination à conduire le Burkina à la victoire contre les forces du mal. Car, dit-il, le combat engagé par les soldats, c'est également pour que le héros tombé au front puisse dormir en paix.
Avant cette visite chez ses familles des éléments des forces de défense et de sécurité tombés au front, le président de la transition est allé encourager des unités combattantes en formation. Ces unités sont composées de militaires issus des écoles de formation de Pau, de Bobo-Dioulasso et de Ouagadougou. À l'issue de cette visite, le chef de l'État note que le travail évolue très bien. Il a précisé que ce sont des unités conçues pour créer l'insécurité au sein de l'ennemi. Le capitaine Ibrahim Traoré.
Nous avions un sérieux problème. D'abord, c'était la réorganisation. Actuellement, il faut générer des unités et il faut les équiper. Et équiper, comme vous pouvez le constater, la puissance de feu de l'ennemi a beaucoup augmenté sur le terrain. Son équipement aussi est en train de se moderniser au fur et à mesure. Il faut que nous passions à une échelle assez importante. Donc, il y a beaucoup de choses en cours. Voilà, grâce au vaillant peuple burkinabé, je pense qu'il y a beaucoup de choses en cours. Des acquisitions sont déjà faites en termes de moyens de combat et tout, terrestres, surtout aériens aussi. Nous sommes très contents aujourd'hui d'avoir sur notre sol le drone le plus performant, mais on ne va pas vous le faire voir parce que c'est aussi stratégique. Beaucoup d'autres choses sont à venir, c'est un montage, on espère qu'il va rentrer en service dans peu de temps.
Une occasion saisie pour le chef de l'État pour revenir sur l'instauration des nouvelles taxes. Pour soutenir l'effort de guerre, selon lui, toutes les taxes instaurées servent à faire des commandes de matériel de combat, à l'entraînement des hommes et à conduire la guerre. Ibrahim Traoré.
Peut-être qu'on a manqué le devoir d'expliquer en long et en large à la masse populaire. On va rattraper, on va les expliquer pourquoi. Mais aussi, ceux qui veulent récupérer ça, c'est un faux problème. Parce que d'abord, est-ce qu'ils ont proposé une seule banque qui finance notre guerre? Il n'y en a pas. Vous n'irez nulle part dans ce monde-là pour demander de l'argent, pour payer l'équipement, pour financer notre guerre. Même ce que nous avons, il y a des endroits où on veut payer et on nous refuse de nous vendre. Donc, qui va nous financer? Alors, c'est le peuple qui fait sa guerre. Et donc, tout ce que vous voyez, c'est pour la population. C'est eux qui ont contribué. Donc, toutes les taxes qu'on récupère depuis là, tout ce qui est commandé, c'est la sueur du peuple.
Des propos recueillis par la direction de la communication de la présidence du Faso. Les nouvelles taxes instaurées pour soutenir l'effort de guerre sont acceptables, mais il faut nécessairement des résultats. C'est l'avis de l'enseignant-chercheur Koudbi Kabore. Il était l'invité à votre émission Dimanche Politique.
Pour que le pays reste debout, toute guerre nécessite des efforts, nécessite des sacrifices de la part donc des populations. De ce point de vue, les populations burkinabées depuis 2016 n'ont cessé de participer à l'effort de guerre. Quand vous prenez l'UTS, un des arguments phares, c'était l'effort de guerre, non? L'UTS, on sait ce que la ponction que ça donne. Quand vous prenez les augmentations depuis ROC, que ce soit le carburant, les denrées, c'est dans l'effort de guerre, non? Ça veut dire que depuis 2016, on a cessé d'augmenter et c'est sous ROC que les gens se plaignaient beaucoup. De petites augmentations d'ailleurs à comparer avec les augmentations qu'on a aujourd'hui. Et le même ministre de la fonction publique aujourd'hui, ministre d'État, pour qui j'ai du respect, disait que l'augmentation de ces taxes sous ROC tuait le peuple. Mais ROC disait qu'il fallait ces taxes pour pouvoir acheter des armes, pour pouvoir financer la guerre. Mais il n'a pas été compris. Il a été systématiquement combattu et les augmentations, les taxes ont été pour beaucoup dans sa chute. Ça, il faut le dire. On a vu le même ministre là qui se promenait sur les plateaux de télévision avec du sel et consorts pour démontrer par A plus B jusqu'où on pouvait ne pas augmenter et on pouvait d'ailleurs diminuer les choses. Aujourd'hui, il est aux affaires, il comprend qu'il faut des taxes.
Au cours de cette émission, la question de l'expulsion des Burkinabés vivant au Ghana s'est également invitée au débat. L'enseignant-chercheur Koudbi Kabore pense que le Ghana a voulu anticiper. Selon lui, qui dit réfugié dit risque pour le pays. Un extrait de ses propos.
C'est le Ghana qui a choisi délibérément d'accueillir nos compatriotes, de les installer dans des camps de réfugiés. Et si le Ghana arrivait à les expulser, moi je pense que la question fondamentale c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la gestion de ces réfugiés-là? Je n'ai pas de réponse, mais je vais esquisser des hypothèses si vous voulez. Vous savez que dans la lutte contre le terrorisme, les pays sont arrivés à prendre des mesures qui privilégie le paradigme de la sécurité nationale au détriment de la protection des droits fondamentaux des personnes. Peut-être que le Ghana dispose de faits factuels. Et vous savez, depuis 2021, le Ghana est dans la ligne de mire des terroristes. Les leaders terroristes, notamment du GSIM, ne le cachent pas. Donc, ils veulent installer des cellules terroristes au Ghana. Et le Ghana est une base arrière des Katiba qui opère à partir du Burkina. Et à partir de février 2022 déjà, le GSIM a nommé Diafa Diko émir, avec pour mission de travailler à l'implantation des cellules terroristes au Ghana. Et Diafa Diko a plusieurs atouts. Il peut exploiter la filière migratoire, parce qu'effectivement, les États sont disposés à accueillir les personnes déplacées, et ces personnes déplacées peuvent être infiltrées. La mission d'installer des cellules terroristes peut réussir. Est-ce que les renseignements ghanéens ont ces données factuelles qu'il y a des infiltrations de nos ressortissants, nos compatriotes installés là-bas, auquel cas la coopération pêche et ne permet pas au Ghana de les gérer convenablement, et donc l'expulsion est vite arrivée.
À l'instant, l'enseignant-chercheur Koudbi Kabore, la rediffusion de votre émission Dimanche Politique, c'est ce matin à 8h et 11h sur Omega TV et sur notre page Facebook Radio Omega Officielle. Une délégation du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine séjourne au Burkina du 22 au 26 juillet. La mission vise à évaluer la situation du pays sur les plans humanitaire, sécuritaire et développement. Dimanche soir, donc hier, une équipe gouvernementale a eu une séance de travail avec la délégation de l'Organisation africaine au ministère des Affaires étrangères. Joël Souré a suivi la cérémonie d'ouverture, son compte-rendu.
Suspendu des instances de l'Union africaine après le coup d'État de janvier 2022, il y a eu plusieurs tractations pour la réhabilitation du Burkina Faso. La présente mission du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine sur le sol burkinabé est saluée par la ministre en charge des Affaires étrangères. À l'ouverture de la séance de travail gouvernemental ce dimanche soir, Olivia Rwamba s'est voulue optimiste dans ses propos.
Il y a eu plusieurs tractations tendant justement à réhabiliter le Burkina Faso, et les textes fondamentaux de l'organisation en question peinaient à nouveau à revenir à la table de négociation. Et ce fait que voir une délégation de cette taille justement à séjour au Burkina laisse augurer de meilleures perspectives.
Forte d'une trentaine de membres, la délégation qui doit passer 5 jours au Burkina Faso a au programme des visites pour toucher du doigt les réalités. Déjà, ce dimanche matin, les déplacés internes de Nagrengo ont reçu la visite de la mission. Cela pourrait permettre d'apprécier de façon concrète la situation vécue par le pays.
Ici, du jour au lendemain, on est appelé à quitter et sa localité d'origine. Et abandonner ses biens et au péril de sa vie pour se retrouver dans un centre du champ. Et j'avoue qu'il faut un courage de taille pour continuer à vivre. Donc je pense que ce matin, ils ont pu voir de visiter ce qui se passe. Et cela va vraiment aider à ce que la situation soit apprécié autrement.
En attendant d'être mieux situé sur la décision finale de l'Union africaine, plusieurs mois après la suspension du Burkina, la délégation, au cours de son séjour de 5 jours, échangera avec les autorités de la transition, dont le chef de l'État.
24 juillet 2014, 24 juillet 2023, cela fait 9 ans que l'avion Air Algérie s'est écrasé dans le désert Oursi au Mali avec à son bord 116 passagers, dont 27 Burkinabés. Pour cette 9e commémoration du triste anniversaire, une équipe d'Omega Media a rencontré Alidou Ouedraogo, le président de l'association des ayants droit. Ce drame, il s'en souvient comme si c'était hier et pointe du doigt les mauvaises conditions dans lesquelles l'embarquement des premiers martyrs du Burkina et des autres nationalités a été fait. Alidou Ouedraogo s'exprime au micro d'Ibrahim Niaouni.
La question du crash de l'avion Air Algérie, juillet 2014, ce n'est même pas des souvenirs, c'est toujours du vécu. Parce que c'est comme si c'était hier. Quand une porte s'ouvre et claque, quand une fenêtre s'ouvre et claque, quand il y a un bruit, je me rappelle toujours cette petite fille qui est parti un matin et en fait, que je n'ai plus vu, fait du crash, l'avion sous air, affrété par Air Algérie, dans les conditions un peu spéciales, rocambolesques, qui me font dire qu'elle et ses 115 autres victimes de cet avion sont morts de façon stupide, pas de leur fait, mais du fait de la cupidité et de l'appât des gains qui ont affrété cet avion dans des conditions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'incidents, l'équipage n'était pas très correct.
Les familles des victimes burkinabées réunies en association des ayants droit du crash Air Algérie ont toujours bénéficié du soutien des régimes qui se sont succédés et Alidou Ouedraogo de rappeler qu'une stèle a été érigée à la Cité en deux, un quartier de la ville de Ouagadougou, non loin de l'aéroport, en mémoire des victimes.
On ne peut pas décrire de cette une absence éternelle, il faut faire avec. À tel point que quand nous nous sommes rendus compte de l'évidence sur place, les ayants droit ont décidé de créer la FAVIC, l'association des endroits du crash de l'avion Air Algérie de juillet 2014 et c'est fait pour commémorer et garder leurs souvenirs. Effectuant les régimes successifs depuis la transition de 2014 jusqu'aujourd'hui se sont impliqués avec les assurances et la volonté des endroits et ont continué à ériger la stèle de souvenirs située à la cité en deux de notre ville. C'est un monument magnifique, imposant, mais qui effectivement rappelle l'ampleur de notre douleur et notre volonté de ne pas oublier.
Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève à la réalisation Edwige Tienrebego. Excellente suite de programme sur Radio Omega.
Radio Omega, l'info en direct.